France Culture.
C'est beau. Ça c'est ok.
Oui.
Oui, allô, c'est Marie de la radio.
Hello Marie, quatrième étage, 4.
Merci beaucoup. À tout de suite.
France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque d'Anne Garita. Marie Richeux.
Ça y est, c'est nous. Salut.
Bonjour. Je vais vous offrir quelque chose à boire. Je sens que c'est nécessaire.
En 2006, pour la bibliothèque oulipienne, Anne Garita produit un court texte inspiré de « Pensées classées » de Georges Perec, paru 21 ans plus tôt. Elle y constate que la bibliothèque débordante de son couloir l'empêche d'atteindre la machine à laver le linge. Et donc, elle imagine quelques principes de classement pour cette bibliothèque réunis sous un nouveau titre, « Impensé, déclassé ». Principe tellement savoureux que je ne résiste pas à en partager quelques-uns avec vous. Par exemple, livre où l'on rencontre des baleines, livre qui ne présente pas la moindre petite baleine, livre d'où ont disparu, on ne sait pourquoi, les baleines qu'on imaginait, livre censément érotiques qui vous ont laissé de marbre, livres casaniers, livres nomades, livres dont on a parlé avec quelqu'un qu'on aimait, livres sans lien d'aucune sorte avec l'amour de quiconque, mais cela qui s'en souvient, livres dont des gens que l'on méprise ont dit du mal, ces livres sont immanquablement respectables. Bref, il faut chercher l'esprit de Garita pour trouver un livre dans sa bibliothèque, elle sait parfaitement où tout se trouve. Elle nous accueille, de passage à Paris, qui brûle alors sous la canicule de juin, l'endroit est en effet rempli de livres, sauf une pièce qui abrite plutôt de quoi faire de la musique. Son roman Sphinx reparaît dans la collection L'Imaginaire de Gallimard 40 ans après qu'elle l'a écrit. C'est un texte marquant sur le désir, l'amour, le manque, la passion, la danse, la transe, l'écriture, où aucun des personnages n'est genré. On suit Anne Garita dans les dédales de ses rayonnages, puis on s'assied à table où le tissage des extraits choisis est éloquent, précis, fourmillant d'écho au présent et d'écho tout court. Écoutons-la.
Parfait.
C'est vous qui êtes notre guide.
Alors, je me suis rendu compte en songeant à votre venue que je n'avais pas rangé cette bibliothèque depuis, je ne sais pas, une ou deux décennies.
Okay.
Donc tout est empilé dans un désordre qui n'est pas totalement désordonné, mais qui n'est pas très lisible de l'extérieur.
Ce n'est pas une anomalie qu'elle ne soit pas rangée depuis plusieurs décennies.
Ranger une bibliothèque, ça demande... Enfin, dès qu'on a... Vous voyez la quantité de livres.
Il y a beaucoup de livres, voilà. Il faut dire à nos auditeurs, peut-être la base, c'est de commencer par ça, c'est qu'il y a des livres véritablement du plafond au plancher, et pour ceux que j'en ai vus pour l'instant, partout.
Partout, oui. Et donc, quand on a une certaine quantité de livres, décider de les ranger et de restructurer, c'est grosso modo les écuries d'Augias, c'est un travail herculéen. On ne sait plus par où commencer. De toute façon, il n'y a jamais assez d'espace de rayonnage. Alors, on peut se dire qu'on peut virer des livres. J'en ai en divers endroits. J'ai une partie de ma bibliothèque aux États-Unis. J'en ai une partie ici. J'en ai une dans mon bureau aux États-Unis. Enfin, il y en a partout. Mais on ne peut pas passer son temps à trimballer des choses aussi lourdes que des livres à travers l'Atlantique, d'un endroit à un autre. Et puis aussi, autre chose, c'est que je n'ai jamais jeté un livre.
Ni même donné, quoi.
Si, je donne. Depuis que je suis devenue jurée du prix Médicis, je reçois et je lis 300 livres par été. Mais je ne peux pas garder 300 livres.
Bien sûr.
Donc, je fais don... Alors, ceux qui arrivent en France à une bibliothèque de campagne, près de chez moi, à la campagne, et aux États-Unis, je les donne à la bibliothèque de mon université. Il doit y avoir des choses qui n'existent qu'en un exemplaire aux États-Unis, et ils sont à la bibliothèque de Duke. Voilà.
Qu'est-ce qui ferait, Anne Garita, que vous ayez... Qu'est-ce qui vous ferait avoir envie de ranger une bibliothèque ? Parce qu'on peut aussi se dire, bon, bah, après tout, en fait, elle est comme ça, elle est comme ça.
C'est quand on commence à ne plus rien retrouver qu'il faut se mettre à ranger.
Okay.
Pour le moment, j'arrive encore à retrouver, parce que j'ai une assez bonne mémoire, et donc je sais plus ou moins où peut se trouver un livre. Donc, tant que j'arrive à retrouver le livre que je cherche au moment où je le cherche, ça va.
Et là, c'est quoi par espace, du coup?
C'est des accumulations. Alors, par exemple, là, vous avez l'Oulipo. Vous avez de l'Oulipo de haut en bas. Vous avez un rayon entier pour les œuvres complètes de Jacques Roubaud, par exemple. Vous avez la bibliothèque oulipienne juste au-dessus.
Qu'est-ce que c'est que la bibliothèque oulipienne?
Alors, la bibliothèque oulipienne, c'est depuis les années 70... L'Oulipo publie des tout petits fascicules à 150 exemplaires, à tout casser, dans lesquels les oulipiens...
Dont vous faites partie?
Oui, dans lesquels les oulipiens donnent des petites choses qui ne vont pas nécessairement intéresser immédiatement un public plus large. Ah. Alors, il y a des choses dedans qui sont absolument cruciales.
Et rares, en plus, j'imagine.
Et rares.
Ouais.
Par exemple... Le voyage d'hiver de Georges Perec a commencé là.
Ah bon ?
Par exemple, un livre de Calvino expliquant les principes de construction de Si par une nuit d'hiver un voyageur était dans la bibliothèque oulipienne.
Ah, fou.
Et puis là, il y a des oulipiens avérés ou pas avérés. Vous avez Marcel Duchamp, dont tout le monde oublie qu'il a été membre de l'Oulipo, qu'il est membre de l'Oulipo puisqu'on ne sait jamais de l'être. Vous avez des plagiaires par anticipation, vous avez Alphonse Allais, vous avez Borges, vous avez Raymond Roussel, là. Et puis, vous avez par exemple Julio Cortázar, qui aurait dû être membre de l'Oulipo.
Et
c'était pas assez sérieux politiquement, et certains de ses amis lui ont dit que non. La révolution avant...
Passait avant toute chose.
Avant tout. Bon,
voilà. Vous les consultez, ces livres, Angareta, régulièrement?
Ça m'arrive.
Ouais.
C'est une bibliothèque qui est à la fois une bibliothèque de plaisir et une bibliothèque de travail.
Pour celle-ci, vous voulez dire, ici
partout,
à Paris?
Toujours.
Partout.
Okay. Toujours.
Y compris à l'université, c'est pareil.
Y compris à l'université, c'est pareil. Il faut pouvoir revenir au texte lui-même et préciser le souvenir qu'on a d'une lecture. En fait,
en y retournant.
En y retournant. On a une bibliothèque dans la tête. Et le problème, c'est comment opérer les allers-retours entre la bibliothèque qu'on a dans la tête et celle qui est sur les rayonnages. Entre la langue et les fragments de langue qui sont dans la tête et les blocs de langue qu'on a déposés là.
Mais quand vous y retournez, c'est pour aller... vérifier que c'est ça, ou c'est pour aller en prendre un plus gros morceau que les seuls mots qui surnagent?
Parfois. Okay. Parce qu'il y a des livres que j'ai lus intégralement et même plusieurs fois, et puis il y en a que je n'ai fait que survoler en me disant « celui-là, j'y reviendrai un jour ».
Puis, et vous y revenez?
Oui. Et puis il y a des nouvelles éditions, vous voyez par exemple, là le Jacques Roubaud, le projet du grand incendie de Londres. Il est au détail ici.
Je sais, ouais.
Grand incendie de Londres, bibliothèque de Warburg, poésie de point, mathématiques de point, la boucle, la dissolution. Et ça a été...
Tout
repris. Et donc, ça ne fait pas le même effet de voir cet énorme truc. Et ça, là, voilà. Et donc, c'est une occasion...
Parfois, je demande à mes invités s'ils ont un rendez-vous comme ça, des livres qui les attendent. Et le grand incendie de Londres, ça fait partie de... Je me dis qu'un jour, je me lancerai dans l'immense aventure du grand incendie de Londres.
C'est une épreuve de patience. C'est une sorte de marathon de langue. Il y en a quelques-uns comme ça dans la bibliothèque. En face de l'Oulipo, d'ailleurs, ça va très bien. C'est logique, vous avez des mathématiques et de la philosophie analytique. Essentiellement
une formation pour vous?
Oui, parce qu'à un moment, je me suis intéressée... j'ai eu une formation française initiale très classique, donc de philosophie continentale. Et ça, c'est Hegel. Okay. Et à un moment donné, étant aux États-Unis, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie analytique, à la philosophie du langage, aux questions de sémantique.
Et pourquoi étant aux États-Unis ? C'est juste un moment dans votre vie, voilà. C'est pas, voilà. Pas de
parce qu'à l'époque, la philosophie analytique n'était pas encore très pratiquée en France.
Il y a un peu de théorie psychanalytique au-dessus de la logique.
Il y a de la psychanalyse au-dessus de la logique, ce qui ne veut pas dire...
Bah si, parce qu'il y a Lacan, alors c'est quand même, ça pourrait se justifier.
J'ai mis Lacan là-haut parce que je n'en ai pas l'usage, alors que ça, j'en ai encore l'usage. On va le dire que ça vous paraît très haut, métaphysiquement au-dessus,
mais c'est au juste ciel une question d'organisation.
C'est une question d'organisation et d'accessibilité. Alors là, vous avez quand même théorie du genre, histoire de la sexualité, féminisme, avec beaucoup de textes que j'ai lus aux États-Unis. Donc vous avez Teresa de Loretis, vous avez Judith Butler, vous avez Eve Kosofsky Sedgwick.
Ça se voit avec les tranches des livres qui n'ont pas des allures françaises.
Ouais. Alors ça c'est une chose absolument, ça vous avez remarqué ça au premier coup d'œil, c'est en France on fait sobre, on fait uniforme, aux États-Unis c'est coloré et c'est fait pour attirer l'œil. Là on a donc de la philosophie politique, tout simplement parce que ma spécialité universitaire, c'était le XVIIIe siècle. Si vous êtes 17e, 18e-iste, vous ne faites pas de différence entre la littérature et la philosophie. Et pour comprendre la littérature du XVIIe et du XVIIIe, il faut lire la philosophie du XVIIe et du XVIIIe. Donc j'ai lu assez rapidement beaucoup de philosophie, à commencer par Rousseau, et donc toute la philosophie politique qui découle de ça. Et derrière, vous avez la littérature en français classique, 18e, 17e, 16e, avec des morceaux de 19e. Quelques rangs de Pléiades.
Quelques rangs de Pléiades. Non, dites la vérité à nos auditeurs. Une bibliothèque entière de Pléiades.
Il faut dire que c'est très compact. Je dois dire que c'est une excellente invention. C'est très compact. On peut les emporter et... on a de quoi lire.
On vous suit ?
Ouais, vous pouvez me suivre. C'est mon bureau.
Tout en longueur pour nos auditeurs. Voilà.
Avec encore une fois, il y a du papier du sol au plafond. Ça pèse lourd, ça pèse très lourd.
Mais vous êtes bien au milieu de tous ces livres, parce que là, il y en a beaucoup partout. Donc ça veut dire que c'est agréable comme présence pour vous.
Ça commence à devenir un peu écrasant.
Ah oui, ok.
Il y a des moments où je rêve...
d'espace tout à fait...
d'espace vide. Et j'avais ça à un moment parce que je laissais mes livres en France et je partais enseigner comme ça, comme visiting dans une université américaine, je n'emportais rien.
Ouais.
Et si possible, je trouvais des appartements vides où je ne mettais rien. Donc j'arrivais à osciller entre un trop plein de livres et une sorte d'espace vierge de contemplation. Et là, il y a...
Les deux sont propices à l'écriture ?
Pas de la même manière.
Pas de la même manière.
Bon, là, vous avez du dictionnaire à plus savoir qu'en faire. Puis vous avez de la théorie littéraire, quoi.
Dites-vous d'un revers de main.
Voilà. Et là, ma spécialité Rousseau sur 2,50 m de rayonnage linéaire.
C'est le seul qui a le droit à ce, à ce sort ?
Probablement. Alors, tout déborde, bien entendu. Et donc là, vous avez n'importe quoi. Sauf ici, où il y a mes ouvrages de menuiserie.
Ça, là ?
Ça, ouais. Ça, c'est un livre excellent sur la mortaise japonaise.
C'est quoi ?
Ben, c'est comment les Japonais font leur assemblage de menuiserie. C'est pas la même chose.
C'est ça, la mortaise ?
Une mortaise.
Ah, une mortaise. C'est les emboîtements ?
Les emboîtements, les assemblages, donc, de... mortaise et tenon. Et ils ont des techniques tout à fait fascinantes.
Fascinant. Parce que vous avez une pratique de la menuiserie à vos heures perdues. Pas que à vos heures perdues.
Si vous regardez, en réalité, le plus étonnant dans mes bibliothèques, c'est pas les livres, c'est les outils de menuiserie.
Ah ouais, j'avais même pas fait attention.
Non, parce que vous avez traversé les outils de menuiserie pour aller directement au livre.
Ah oui, c'est incroyable, ouais. Alors qu'il y en a partout maintenant que vous me le dites. Ouais.
Maintenant, vous ne voyez plus que ça.
C'est ça.
Maintenant, vous oubliez les livres.
Et ça va, le qu'une fond vitrine et la figure. Ouais. Voilà. Et là aussi.
Et là aussi. Ouais. Le fond et la figure viennent de basculer pour
absolument.
Vous. Voilà. Et donc, ça
me rappelle un texte.
Ça, c'est un rabot Stanley.
Waouh.
Numéro 7. Voilà, très joli. Et ça, c'est des rabots à moulurer. J'en ai une collection.
Mais une collection, d'accord, mais c'est pour fabriquer des choses.
Ouais. Alors, pour le moment, je fabrique peu, parce que j'ai peu de temps, mais j'ai eu fabriqué, et je compte bien. Ouais, on se fait des projets comme ça, de vie studieuse. On va se retirer à un moment à la campagne.
Et pour faire de la menuiserie.
Sa bibliothèque et ses outils de menuiserie. Et vous voyez, c'est complémentaire. Je rêve de pouvoir me construire un peu plus de bibliothèque sur mesure pour accueillir les livres. Donc j'ai ce qu'il faut pour...
C'est très cohérent, Anne-Garetta.
C'est totalement
cohérent. C'est très cohérent. Merci.
Trop sympa.
I'm making a beautiful wooden chair with carvings of pretty roses and a bird in the middle with wings so wide.
Ça, c'est plutôt musique que
to hold me when the day closes.
Est-ce qu'on peut pas y échapper?
Chair low enough so when by the river I can reach the water. A chair that is strong so when time moves along my days and my years will not matter. A chair is a chair till you give it a heart. A heart is a heart till you break it apart. And a part of this song was for you from the start. So sing it along, don't you worry. If you kiss the blisters on my little hands, so tired from carving all lonely, I pile up some wood and make a little bench to rest by my side for you only.
Alors, comment vous avez interprété notre invitation, Anne-Garetta? Vous vous êtes dit quoi pour ces 5 extraits?
Que vraiment, vous charriez un peu de demander. C'est extrêmement difficile de choisir... 5 textes ou 6, c'est.
Ça n'a aucun bénéfice. Ouais.
Si, parce que on se dit, bon, il faut choisir. Et qu'est-ce qui a encore un peu de sens?
Pour vous, pour parler de vous, vous l'avez pris.
Littérature en général.
Ah, ok. Donc, mais c'est plutôt, du coup, c'est un peu un statement, c'est pas comme un autoportrait.
Non, c'est pas un autoportrait, c'est plutôt un statement, c'est-à-dire une assertion sur ce qui pour moi compte comme littérature. Il y a des livres que je lis depuis 40 ans. Mmh. Là, vous voyez, celui-là, il commence à tomber.
Hein. À Rousseau, tout voilà. À fait annoté.
Ouais. Annoté, de, voilà, entièrement, ouais. Depuis 40 ans. Il y a aussi autre chose que vous allez voir, c'est par exemple, j'ai ressorti ce livre... de Christine Angot dans ma bibliothèque. Et dedans, il y a le carton d'invitation et une lecture à la librairie Pause Lecture. Christine Angot, L'inceste, édition Stock. Anne-Garetta, La décomposition, édition Grasset.
Ça, c'est important pour vous, ce genre
de traces.
Ouais.
Oui, parce que, par exemple, il y a ici, sur la page de garde, les indications des pages qu'elle a lues et des pages que j'ai lues et comment on a croisé les lectures. C'est des moments importants. C'est pouvoir se dire aussi, 1999, c'était il y a 26 ans. C'est un quart de siècle.
C'est énorme.
C'est énorme. Ouais. C'est absolument énorme. Et qu'est-ce qu'il reste d'un livre paru il y a un quart de siècle? Quelle est sa résonance aujourd'hui?
Puisque vous parlez de qu'est-ce qui reste d'un livre des décennies après sa parution, c'est vrai qu'un des prétextes à l'invitation et au portrait de votre bibliothèque, c'est la reparution à l'imaginaire Gallimard de Sphinx. C'est 1986, soit quasiment 40 ans, en tout cas 40 ans pour le moment d'écriture, parce que c'est 84-85 pour vous. Ça vous a intéressé de vous demander ce qu'il en restait, pour vous, pour les autres? Ou d'ailleurs, est-ce que c'est sous cette forme-là que ça s'est posé pour vous?
J'ai cru pendant longtemps que c'était un texte qui était complètement mort pour moi. Je n'arrivais pas à le relire. Il y avait des gens qui arrivaient à le lire, ou même à le relire, mais pour moi, je n'y arrivais pas. Et là, curieusement, je suis à nouveau capable de le lire et de voir autre chose que ses défauts. C'est-à-dire de ressaisir un peu la logique, un peu la tension ou le désir que j'avais de faire quelque chose de particulier avec ce livre à l'époque. Ça tient aussi au fait que quelqu'un a pensé à le republier, c'est-à-dire à le ressusciter. Et donc j'en rends grâce à Margot Gallimard qui me l'a demandé.
C'est d'ailleurs beau ce travail que fait Margot Gallimard en allant chercher des textes. En ce moment, on a l'impression d'un... C'est assez beau de voir un projet assez méthodique comme ça, on la voit faire.
Et elle le fait avec beaucoup d'élégance aussi et beaucoup de goût. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire remonter le fond à la surface. Il y a un choix, il y a des éléments supplémentaires pour... rendre disponibles et lisibles à nouveau des textes qui ne sont pas nécessairement d'emblée lisibles. Et puis il y a des textes qui n'ont jamais existé. La réédition de Ravage de Violette Leduc, elle n'a jamais existé telle qu'elle existe maintenant. C'est une véritable édition critique qui a surmonté la mutilation et le démembrement de ce texte. Donc, j'appelle pas...
bouleversant de le lire.
Absolument.
Ouais. Alors...
Oui, alors bien entendu, non seulement il faut se limiter à 5 ou 6 livres,
mais
en plus il faut choisir un extrait. Pour La Princesse de Clèves, il faut penser à la fin. Madame de Clèves passe son temps à vouloir en finir. Elle veut échapper, elle cherche à se retirer, elle veut une retraite, elle veut son repos. Mais il y a toujours quelque chose qui la rappelle à la cour, qui la rappelle aux passions mondaines. Et donc c'est une série d'oscillations constantes, de tentatives constantes pour, grosso modo, faire une fin, et une fin au sens le plus funèbre, au sens le plus 17e siècle de la chose.
On vous écoute.
Cette vue si longue et si prochaine de la mort fit paraître à Madame de Clèves les choses de cette vie, de cet œil si différent de celui dont on les voit dans la santé. La nécessité de mourir, dont elle se voyait si proche, l'accoutuma à se détacher de toute chose, et la longueur de sa maladie lui en fit une habitude. Lorsqu'elle revint de cet état, elle trouva néanmoins que M. de Nemours n'était pas effacé de son cœur, mais elle appela à son secours pour se défendre contre lui toutes les raisons qu'elle croyait avoir pour ne l'épouser jamais. Il se passa un assez grand combat en elle-même. Enfin, elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que la maladie lui avait donnés. Les pensées de la mort lui avaient rapproché la mémoire de M. de Clèves. Ce souvenir, qui s'accordait à son devoir, s'imprima fortement dans son cœur. Les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissent aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées. Sa santé, qui demeura considérablement affaiblie, lui aida à conserver ses sentiments. Mais comme elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages, elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes, ni revenir dans les lieux où était ce qu'elle avait aimé. Elle se retira sur le prétexte de changer d'air dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour.
Pourquoi vous avez choisi ce texte-là, Anne Garetta ?
Pour la finesse de l'analyse. La finesse de l'analyse de ce qui détermine la conduite d'une femme de cette époque. Et qui n'est pas une analyse totalement abstraite. Ça touche à l'état du corps, à l'état de la santé. Ça touche aux habitudes de vie de la princesse de Clèves.
Cette phrase, elle savait ce que les occasions...
Voilà. Elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages. Donc elle a appris à se méfier d'elle-même. C'est toute une éducation, une discipline de méfiance à l'égard de soi-même et en même temps d'aveu de la puissance des passions.
Mais elle y renonce.
Oui, mais c'est un combat extraordinaire. C'est une agonie au sens de l'agone, le combat mortel ultime. Et beaucoup de gens ont reproché à la princesse de Clèves d'être totalement névrosée et de jouir de la frustration. Mais c'est faire une erreur fondamentale sur le contexte historique. Madame de Clèves analyse avec une acuité parfaite les conditions dans lesquelles une femme peut éprouver de la passion dans une société de cour et les conséquences que cela peut entraîner.
C'est de la sagesse ? C'est de la lucidité ?
C'est de la lucidité et une sorte d'orgueil aristocratique insoutenable. Mais la finesse de l'analyse, elle est double toujours, parce que vous avez la voix qui parfois se sépare de la perspective de Madame de Lafayette et parfois nous fait rentrer entièrement à l'intérieur de cette perspective. Et donc c'est une sorte de sensation très étrange. Vous êtes non seulement dans la pensée de quelqu'un, mais dans sa non-pensée, dans les choses qui échappent à sa conscience claire et qui pourtant vous sont communiquées.
Et qui n'échappent pas à la narration.
Et qui nous laisse voir le trouble, le doute, l'opacité des passions à la conscience. C'est un livre extraordinaire. Alors ça fait partie des livres qu'on peut relire 25 fois, 30 fois, et au détour d'une phrase, on perçoit quelque chose qu'on n'avait jamais perçu auparavant. On peut se focaliser sur l'intrigue amoureuse, mais l'intrigue amoureuse est inséparable des intrigues politiques qui agitent la cour et des combats, des luttes, des guerres qui, tout autour, convoquent la noblesse sur des champs de bataille. Il y a mention de tout un tas de campagnes. Vous avez des lieux, vous avez des éloignements, vous avez une logique entière de l'attaque, de la fortification qui est à l'œuvre et qui se répercute jusque dans les histoires d'amour des personnages.
Elle est prise dedans, quoi.
Monsieur de Nemours fait le siège, comme on fait le siège d'une forteresse, de la princesse de Clèves.
Votre deuxième choix, enfin je sais pas, mais c'est à vous de me dire. Moi j'allais aller vers Rousseau.
Qui est ce texte surannoté là. Du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau.
C'est très studieux comme annotation, hein, Anne Garetta, quand même.
Je suis quelqu'un de studieux.
D'accord. C'est propre, c'est tracé à la règle, il y a des post-it, il y a même un petit marque-page
en laiton,
merci.
Voilà, c'est pour repérer non seulement la page, mais aussi la ligne.
Voilà, c'est du sérieux, quoi.
Non, c'est sérieux. Mais je pense qu'il faut être extrêmement sérieux si on veut pouvoir s'amuser et ensuite ne plus être sérieux. Ça, c'est Queneau qui disait... il n'y a pas que le sérieux, il y a aussi la rigolade. Mais il n'y a pas que la rigolade, il y a aussi le sérieux.
Voilà. Donc,
il faut... il faut... Bien, alors, donc, c'est dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. C'est une réflexion de Rousseau sur quelque chose qui date de l'état de nature et qui est avant la raison et qui est la pitié naturelle. Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion. Telle est la force de la pitié naturelle que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, puisqu'on voit tous les jours dans nos spectacles s'attendrir et pleurer au malheur d'un infortuné, tel qui, s'il était à la place du tyran, aggraverait encore les tourments de son ennemi. Mondeville a bien senti qu'avec toute leur morale, les hommes n'eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eût donné la pitié à l'appui de la raison. Mais il n'a pas vu que de cette seule qualité découlent toutes les vertus sociales qu'il veut disputer aux hommes. En effet, qu'est-ce que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié appliquée aux faibles, aux coupables ou à l'espèce humaine en général ? La bienveillance et l'amitié même sont à le bien prendre, des productions d'une pitié constante, fixée sur un objet particulier. car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre chose que désirer qu'il soit heureux ? Quand il serait vrai que la commisération ne serait qu'un sentiment qui nous met à la place de celui qui souffre, sentiment obscur et vif dans l'homme sauvage, développé mais faible dans l'homme civil, qu'importerait cette idée à la vérité de ce que je dis, sinon de lui donner plus de force ? En effet, la commisération sera d'autant plus énergique que l'animal spectateur s'identifiera plus intimement avec l'animal souffrant. Or, il est évident que cette identification a dû être infiniment plus étroite dans l'état de nature que dans l'état de raisonnement. C'est la raison qui engendre l'amour-propre et c'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est la philosophie qui l'isole, c'est par elle qu'il dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant « Péris si tu veux, je suis en sûreté ». Il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe et qui l'arrachent de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre, il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles et s'argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l'identifier avec celui qu'on assassine. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent, et faute de sagesse et de raison, on le voit toujours se livrer étourdiment aux premiers sentiments de l'humanité. Dans les émeutes, dans les querelles des rues, la populace s'assemble, l'homme prudent s'éloigne. C'est la canaille, ce sont les femmes des halles qui séparent les combattants et qui empêchent les honnêtes gens de s'entr'égorger.
Oups, oups, oups. Évidemment, enfin je sais pas, je vous laisse commenter Anne-Garetta. Bien des échos avec... les difficultés que le monde contemporain peut-être adresse à celles et ceux qui travaillent dans leur bureau, lisent des livres, pensent.
Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il parle de l'animal spectateur et de l'animal souffrant. C'est de l'animal. C'est avant la raison, c'est avant l'humanité en tant qu'elle se sépare ou prétend se séparer de l'animalité.
D'accord, mais enfin, il dit après surtout que c'est la philosophie qui sépare celui qui l'exerce de ce sentiment premier.
Absolument. Et en effet, si on ne devait compter que sur le calcul rationnel et la ratiocination des intérêts, nous irions directement à la catastrophe. Et c'est ce que l'on voit tous les jours avec le capitalisme, disons, dans sa forme... contemporaine la plus achevée.
Comment on fait pour être aux deux endroits alors, Anne-Garetta ? C'est-à-dire avoir parcouru toute cette bibliothèque, dire à quel point la littérature, la pensée, la philosophie, la pensée philosophie des mathématiques compte pour vous, vous forme, font ce que vous êtes, et manifestement, nous soumettant cet extrait-là, vous font aussi penser à la nécessité, enfin, ce qu'il appelle la première pitié, qu'on pourrait aussi appeler l'empathie, en tout cas la capacité qu'on a de se mettre à la place de celui ou celle qui souffre.
Alors, il y a deux choses à penser à ça. La première, c'est que la manière dont Rousseau l'articule est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Il a à la fois le rythme et une logique implacable. Si vous regardez le détail de chacune de ses phrases, proposition après proposition, c'est articulé et c'est enchaîné. Vous pouvez... ne pas être d'accord avec l'axiomatique de base, avec les prémices. La logique est impeccable et implacable. Et c'est non seulement de la logique au sens d'une quasi-axiomatique et d'une démonstration, mais c'est une démonstration rythmée. Donc chacune des phrases a un rythme particulier. Vous avez des périodes, vous avez des constructions en parallèle qui donnent une forme, une charpente à ce truc. Ce qui fait que quand vous le lisez suffisamment, vous êtes emporté par autre chose qui vous saisit physiquement. Et donc, vous êtes le philosophe raisonneur, mais vous êtes aussi l'animal
Lecteur.
Donc
ça veut dire que la séparation dont il parle et qu'il déplore quand même, ou en tout cas qu'il observe dans ce paragraphe-là, elle tient pas si on est l'animal lecteur, ou elle tient plus s'il y a quelque chose de l'animal premier qui demeure.
Voilà. Si on est capable de ressaisir l'animal souffrant en soi, bien on peut faire échec
à la séparation qu'opère la pensée ou la philosophie.
Voilà.
Et ça, facile, pas facile, histoire d'une vie.
C'est la même chose qu'avec la princesse de Clèves et l'analyse que donne Madame de Lafayette des passions. C'est quel est le rapport entre la sensibilité et l'intellection.
Pour ce qui est du vôtre, est-ce que vous sauriez dire à peu près comment ça s'équilibre?
J'essaye le plus possible de ne pas être un animal simplement cérébral. Il y a une très très belle correspondance, c'est celle entre
Flaubert et
George Sand. Et ce sont deux absolus géants du 19e siècle. Et d'ailleurs, plus ça va, plus j'apprécie Flaubert par-dessus tout, et plus j'apprécie aussi George Sand par-dessus tout.
Alors, on va prendre. À nos auditeurs, ce sont des centaines et des centaines de lettres que s'envoient.
La correspondance de Flaubert est incroyable. Ce type sentait profondément les choses, et c'est ça son point de contact avec George Sand. Il n'est pas tombé, ou il n'a pas chu dans la dessiccation idéologique de son époque. Voilà. Et la même chose avec George Sand. Ils ont gardé leur vie et leur sensibilité à vif. Ils ne se sont pas anesthésiés et desséchés
dans quoi ?
Dans la bêtise. Donc ça, c'est une lettre qui date de 1871.
Qui écrit à qui ?
C'est Flaubert à George Sand, le 11 mars 1871. Et c'est en plein milieu d'une catastrophe. Il y a eu Sedan, il y a eu la défaite vis-à-vis des Prussiens. On n'est pas encore à la Commune de Paris, mais les Prussiens ont envahi la France. Il dit à la fin de la lettre « J'ai actuellement à Croisset 40 Prussiens qui logent chez lui. » Et voilà ce qu'il dit. « Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai souffert depuis le mois de septembre. Comment n'en suis-je pas crevé ? Voilà ce qui m'étonne. » Personne n'a été plus désespéré que moi. Pourquoi cela ? J'ai eu de mauvais moments dans ma vie. J'ai subi de grandes pertes. J'ai beaucoup pleuré. J'ai ravalé beaucoup d'angoisses. Eh bien, toutes ces douleurs accumulées ne sont rien. Je dis rien du tout en comparaison de celles-là. Et je n'en reviens pas. Je ne me console pas. Je n'ai aucune espérance. Je ne me croyais pas progressiste et humanitaire, cependant. N'importe, j'avais des illusions. Quelle barbarie, quelle reculade. J'en veux à mes contemporains de m'avoir donné les sentiments d'une brute du XIIe siècle. Le fiel m'étouffe. Ces officiers qui cassent des glaces en gamblant, qui savent le sanskrit et qui se ruent sur le champagne, qui vous volent votre montre et vous envoient ensuite leur carte de visite. Cette guerre pour de l'argent, ces civilisés sauvages, me font plus horreur que les cannibales. Et tout le monde va les imiter, va être soldat. La Russie en a maintenant 4 millions. Toute l'Europe portera l'uniforme. Si nous prenons notre revanche, elle sera ultra féroce. Et notez qu'on ne va penser qu'à cela, à se venger de l'Allemagne. Le gouvernement, quel qu'il soit, ne pourra se maintenir qu'en spéculant sur cette passion. Le meurtre en grand va être le but de tous nos efforts, l'idéal de la France. 1871. Ça annonce 1914. Toute l'Europe portera l'uniforme et ce sera le meurtre en grand dans des dimensions qu'on n'avait pas même imaginées auparavant. Flaubert, il est là. Il le voit. Et il l'anticipe.
Si je reprends l'endroit où nous étions avec Rousseau et donc cette place particulière de celles et ceux qui pensent, écrivent, qui pourraient éventuellement les séparer de la première pitié animale.
Non.
En l'occurrence
Non. Parce que c'est ça, le truc, c'est la littérature et la langue sont l'exercice naturel de la sensibilité animale. On n'a pas la langue comme un outil ou un truc de logique. On n'a pas une machine logique dans la tête. On a une langue qui est un organe organique sensible. Si vous lisez des livres et si vous écrivez, si vous voulez vraiment écrire, il faut que la langue soit en vous comme un organe supplémentaire.
Et donc, un organe qui permet à...
Qui saisit,
oui, voilà.
Qui sent, qui perçoit.
Et qui permet à Flaubert de voir arriver l'horreur.
Voilà. Qui permet à Madame de Lafayette d'analyser des mouvements infimes avant même la conscience. Avant même la conscience.
Ça vous est arrivé d'ailleurs de vous dire que vous écriviez avant vous, Angaretta ? Comme si votre langue, cet organe dont vous parlez là, notre instrument de sensibilité, vous devançait considérablement ?
Non, la langue, elle est toujours en avance de vous. Comme la littérature est toujours en avance de la théorie.
Comme le corps, souvent, non ?
Comme le corps est en avance de la réflexion. Et la difficulté, quand on écrit, c'est de ne pas écrire ce qu'on pense, ou ce qu'on croit qu'on pense. Mais d'arriver à ressaisir quelque chose dont on n'a pas l'usage dans la vie courante, dans la vie civile, où il faut être gentil, poli, mondain, et ne pas trop s'exposer à vif, mais où il faut aller ressaisir des choses qui sont avant la conscience, avant la claire réflexion. Et c'est pour ça que on peut écrire sans savoir exactement ce qu'on fait, mais en sentant qu'on saisit quelque chose. C'est un travail, et on ne peut y arriver que par un travail précis, long et lent, qui n'est absolument pas économique, qui est une dépense totalement improductive et fort mal rémunérée. Voilà. Mais quand on y arrive, c'est vraiment jouissif.
Et pourquoi c'est jouissif ? Qu'est-ce qu'il y a de jouissif à être capable d'attraper cet état-là qui précède la conscience et quand même le faire avec un outil ? Bien sûr, vous dites, c'est un organe, il est en nous, il est profondément instinctif, le langage, etc. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui s'organise dans la langue.
Absolument.
Et donc c'est ça qui est vraiment très étonnant, c'est que l'écriture pourrait organiser quelque chose de non organisé sans savoir qu'elle l'organise.
Voilà, mais elle le fait. Et de la même manière que quand vous marchez ou quand vous faites des mouvements de danse, ben vous faites exactement la même chose. Tous les arts fonctionnent comme ça. La joie qu'ils donnent, c'est simplement la sensation d'être vraiment dans le monde. Et non pas simplement dans un carcan de conventions, de normes, d'habitudes, de manières de faire qui n'ont rien à voir avec ce que vous désirez. Ou les plaisirs que vous pouvez rechercher.
Je vois Proust, roman familial de Laure Murat, dans votre liste. Est-ce que ça vous va d'aller vers ça ?
Ça me va très bien. Je trouve que c'est un excellent livre qui est à la fois parfaitement érudit, nous dit beaucoup de choses sur Proust, en particulier corrige de manière très simple certaines des imbécilités qui circulent sur Proust, et d'autre part qui articule en fait la littérature à une expérience sensible, une expérience de vie, et cette relation à la bibliothèque, cette relation aux livres, aux phrases de Proust permet de découvrir quelque chose dans la vie et de penser autrement que le milieu dont on sort, ou le milieu qui ne veut pas que vous sortiez de lui. Voilà, on va le dire comme ça.
Chose dont témoigne ce livre de Laure Murat.
Chose dont témoigne ce livre de Laure Murat, qui sort d'une famille extrêmement conservatrice, extrêmement aristocratique, et qui s'est rebellée entièrement contre les normes et les attentes de cette société, de ce milieu, et pour s'en émanciper, et aussi pour se consoler de la perte de ce confort d'une origine, a trouvé dans Proust à la fois une arme, un secours, et un extraordinaire outil d'analyse. Alors, il y a un passage qui est un passage un peu personnel et qui nous ramène encore une fois au XVIIe siècle et à toute une histoire. Sur quoi est-ce que l'histoire est fondée et d'où sortent les vies contemporaines ? Donc, son grand-père était le duc de Luynes. Et quand on écrivait au grand-père de Lord Murat, on écrivait au duc de Luynes, au château de Luynes, à Luynes. Et c'est donc la coïncidence parfaite, l'identification d'un nom et d'un lieu, d'une personne, mais même d'une lignée et d'une fortification. On croit les châteaux forts austères. Celui-ci était solaire, joyeux, une lumière l'habitait. C'était à la fois la lumière de la vallée de la Loire, cette lumière qui monte de la terre et une lumière intérieure, blonde, qui émanait des pierres. On ne pouvait pas être touché par le malheur dans cette clarté diffuse qui imprégnait chaque pièce, même par mauvais temps. Soleil de l'été, aube tendre, miroir de la neige en hiver, tout irradie dans mon souvenir. Très tôt, j'ai pourtant senti que cette douceur et cette gaieté insouciante qui marquaient chacun de mes séjours se doublaient d'une ombre. Derrière le rêve, authentique et radieux, nourri de rires d'enfants, de jeux et de repas de rois, comme une fête permanente, se profilait en filigrane un cauchemar sous la forme d'un charnier. Je sentais les cadavres gémir sous mes pieds. Un jour, j'ai été prise de vertige lorsque dans la salle de bain aménagée dans une tour du XIIIe siècle, je marchais sur le cadre d'une trappe qui ouvrait sur des oubliettes. J'entends encore le grincement, le jeu du bois sous ma semelle. Quelques centimètres d'épaisseur me séparaient du trou. Combien y avait-il été précipité ? Combien d'hommes et de femmes s'étaient-ils écrasés 30 mètres plus bas en représailles de leur désobéissance ou de leur infidélité. La nuit, je tombais avec eux, je partageais leur déchéance et leurs cris de terreur au moment de basculer dans le vide. J'accompagnais leur chute jusqu'au sol, à l'instant où les os se brisent dans un bruit de froissement. Tout lieu de pouvoir s'érige sur un cimetière. Descendre en droite ligne de brutes anoblies ne m'enorgueillissait pas. Je ne parvenais pas à oublier que le connétable de Luynes, grand fauconnier de France et capitaine des Tuileries, avait gagné son titre de duc en faisant assassiner Concini, favori de Marie de Médicis, dont l'influence gênait l'accession de Louis XIII au pouvoir. Le cadavre avait été profané, pendu par les pieds, puis dépecé et brûlé. Le recueil des charges au procès fait à la mémoire de Concini, maréchal d'Ancre, au chef de crime de lèse-majesté divine, associe sa femme, Léonora Galigai, qui sera jugée pour juiverie et exécutée en place de grève. Leurs biens seront attribués à mon ancêtre, en remerciement de ses bons et loyaux services. Je vais là où le devoir et la gloire du roi m'appellent, disent les armoiries familiales. Tout lieu de pouvoir s'érige sur un cimetière.
Un charnier même, il y a ce mot-là.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi ce passage-là, Anne-Garetta ?
Ça résonne assez bien avec les autres, non ?
Ouais. Y compris avec le motif de la fortification qui est là depuis le début, qui est là depuis Madame de Lafayette. Et le pressentiment que vous faites aussi courir sous tous les choix de textes que vous proposez.
Il y a une dimension extrêmement intéressante dans l'histoire dont rencontre la littérature. Et que Rousseau essaye de penser, c'est pourquoi les humains sont-ils esclaves ? Pourquoi la domination ? Pourquoi l'exploitation ? Pourquoi les meurtres de masse, les meurtres en série ? Qu'est-ce qui fait de cet animal humain un monstre ? À quoi ça tient ? Et en même temps, vous voyez toutes ces choses extraordinaires d'élégance, de beauté solaire, un château, une forteresse.
On ne peut pas être malheureux dans cette lumière-là, dit Murat. Ouais.
Mais en dessous, il y a une ombre.
Ouais.
C'est extrêmement inquiétant si vous y réfléchissez. Et ce n'est pas simplement quelque chose que l'on sait abstraitement. Ça traverse, elle le dit, toutes ses nuits. C'est les cauchemars récurrents de la chute et du massacre du charnier. Mmh. Comme si, à titre individuel, et même en plein XXIe siècle, alors qu'on n'en est plus à essayer de récupérer, mutiler, profaner la dépouille de Concini pour s'en faire un apanage, l'histoire hante. L'histoire avec sa grande hache, disait Pérec.
Vous avez cru que nous allions vous laisser tricher. Or, la règle, c'est 5 et non 6. Vous avez le choix entre truisme d'Ariosec ou l'inceste de Angot.
Non. On va avoir, et j'en suis désolée pour vous, mais je ferai plus court.
Ok.
Je ferai plus court.
Mais vous tenez aux deux.
Voilà.
Ouais. Ces deux textes qui ont 3 ans de différence dans leur temps de publication. Alors. 96, Truisme, et l'inceste, 99.
Et ce sont deux textes qui ont marqué, et qui ont marqué à très très bonne raison. Truisme, c'est l'entrée en littérature de Marie d'Ariosec, et elle renverse la table avec. Et l'inceste de Christine Angot, même si elle a beaucoup payé, et si elle a pris cher pour avoir osé dire ce qu'elle a dit, eh bien, ça a marqué. Et s'il n'y avait pas eu ce livre de Christine Angot, il y en a tout un tas d'autres qui n'auraient jamais été possibles. Donc, alors, on va commencer avec Christine Angot. C'est donc vers la fin de L'inceste, qui est paru en 1999. C'est un passage dont elle m'a rappelé qu'il était apparu dans notre lecture commune. J'étais un chien, je cherchais un maître, et je suis toujours un chien, et je cherche toujours un maître. Quand il m'aboie à la gueule, comme Marie-Christine au téléphone hier. C'est normal, j'ai fait tout pour, je suis une folle, on ne m'enferme pas parce que j'écris, et que ça me tient. Je cherche à être un monstre, peut-être, comme lui, je suis folle comme lui, ça gâche tout comme lui, je parle parfaitement ma langue comme lui, je suis insupportable comme lui, j'ai du charme peut-être comme lui, je suis brune comme lui, j'ai des petites mains comme lui, je suis un chien, je cherche un maître, personne ne veut plus être mon maître. Et lui, est-ce qu'il accepterait d'être à nouveau mon maître? Est-ce que je saurais encore lui obéir? C'est totalement dévastateur comme passage, ça. C'est absolument insupportable que quelqu'un puisse dire, c'est insoutenable, en même temps, c'est parfaitement nécessaire que quelqu'un puisse dire ça.
Parlant de son père qui l'a violé,
parlant de son père qui était une ordure perverse, incestueuse, manipulatrice et grotesque, et en même temps un homme parfaitement cultivé, parlant plusieurs langues et bourgeois quand on n'en fait pas.
Elle témoigne dans La nuit sur commande.
Exact.
Les accointances de calendrier entre les sorties au musée et les viols.
Exact. C'est-à-dire que la culture, pour un homme comme le père de Christine Angot, la littérature, les langues, c'est simplement un prétexte pour mieux dominer, pour mieux violer, pour mieux satisfaire son amour propre, sa vanité, et pour mieux éteindre en lui tout sentiment de pitié naturelle. Voilà, on revient exactement au portrait que fait Rousseau de l'homme civilisé.
Et on revient à la lumière d'apparat et au charnier.
Voilà. Et ce que dit Christine Angot, c'est « j'étais un chien ». Elle est du côté de l'animal souffrant. Et en face, il n'y a pas un animal spectateur, il y a un philosophe froid qui calcule ses plaisirs et les maximise. Et ceci, bien entendu, est un des ressorts fondamentaux de « il y a un maître et il y a un chien ». Donc c'est un des ressorts de la domination. Alors qu'il s'agisse du pouvoir politique, de la guerre à titre de nations entières ou de classes sociales entières, ou qu'il s'agisse des choses qui se passent dans l'intimité des familles, entre deux corps, la logique est assez semblable. C'est au sein des familles qu'on apprend le pouvoir et qu'on apprend le jeu de la domination. Qu'on apprend soit être un maître, soit être un chien. Alors, on revient encore une fois aux animaux parce que truisme est extraordinaire. C'est avec une simplicité, une apparente naïveté et une naïveté retorse confondante, Marie d'Arieusec nous parle de devenir femme, c'est grosso modo être transformée en animal.
Une femme dans le roman se réveille transformée en truie.
Voilà. Et ceci, ça commence pour une raison très très simple. Il y a des conditions économiques, sociales, précises, qui font que cette femme devient truie par une nécessité qui n'est pas une nécessité allégorique abstraite, mais... Voilà, juste un petit morceau. Je me souviens qu'à cette époque où tout a commencé, j'étais au chômage et que la recherche d'un emploi me plongeait dans des affres que je ne comprends plus maintenant. Je supplie le lecteur chômeur en particulier, de me pardonner ces indécentes paroles. Mais hélas, je ne serai pas à une indécence près dans ce livre. Et je prie toutes les personnes qui pourraient s'en trouver choquées de bien vouloir m'en excuser. Je cherchais donc du travail, je passais des entretiens et ça ne donnait rien. Jusqu'à ce que j'envoie une candidature spontanée, les mots me reviennent, à une grande chaîne de parfumerie. Le directeur de la chaîne m'avait pris sur ses genoux et me tripotait le sein droit et le trouvait visiblement d'une élasticité merveilleuse. À cette époque-là de ma vie, les hommes s'étaient tous mis à me trouver d'une élasticité merveilleuse.
Vous voulez nous dire un mot pour conclure sur votre choix de truisme, Anne Garetta ?
C'est marquant parce que même si c'est insupportable pour qui veut continuer à croire au bonheur sans ombre, le mécanisme social qui fait que les corps deviennent des corps exploités, dominés, ils le deviennent, ils ne le naissent pas. On n'est pas femme, on ne naît pas truie, on le devient. Et c'est aussi implacable que l'inceste de Christine Angot, aussi lucide que Rousseau, Madame de Lafayette ou Laure Murat. Ce sont de beaux exercices de lucidité.
Merci beaucoup, Anne Garetta, d'avoir ouvert pour nous votre bibliothèque.
Merci, c'est une très belle émission. Et les bibliothèques sont des très beaux sujets.
À bientôt.
À bientôt.
Bye, Adrien. Salut le chien.
Merci. Tiens, encore des livres.
Pour retrouver toutes les références de textes lus et choisis par Anne Garetta, rendez-vous sur franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi sur cette page que vous pouvez retrouver la série de tous nos portraits de bibliothèques. Ici, chez Anne Garetta, la prise de son était assurée par Patrick Muller. Cet épisode est réalisé par Nicolas Berger. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions, en particulier aujourd'hui à Louise Hott. À vous aussi.
Encore et encore, je veux du soleil. Des crustacés, des lettres d'or, oublie ton corps, encore et encore, et je t'oublierai, car ton silence parle fort, et je t'oublierai.